délivré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
De la réveilleur Zinchard, boisé sur le slalom, et zigzag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Nous revoici en direct du centre Marcel Thion de Drummondville pour compléter le reportage du match d'aujourd'hui, le premier de la série de premier tour, 3-5 opposant les Remparts aux Voltigeurs. Allons-y à l'instant même avec le sommaire du match, un sommaire qui vous est présenté par Budweiser. Devant le filet pour les Voltigeurs, Francesco Lapena. Pour les Remparts, le vétéran Thomas Sigouin. Ce sont les Voltigeurs qui ouvrent la marque en avantage numérique. Luke Woodward, qui va d'un tir du revers précis pour battre le gardien Sigouin par-dessus l'épaule droite. Des passes à côté à Simoneau à 6 minutes 54. En avantage numérique, les Voltigeurs prennent les devants 1-0. Avant la fin de la première période, Charlie de Fonseca double l'avance des siens. Une passe à Daniel Agostino, but marqué à force égale à 18-45. 2-0 Drummondville, c'est la marque après 20 minutes de jeu. Les tirs au but en première, 12 par les Voltigeurs et 9 par les Remparts. En deuxième, d'abord, James Malatesta réduit la marque à 2-1, tire des poignets précis pour battre le gardien Lapena à sa droite. Des ailes à gaucher à Mariala, but marqué à 5-0-2, à force égale 2-1 au pointage. 52 secondes plus tard, les Remparts créent l'égalité. Olivier Pouliot bien posté dans l'enclave, dans le haut de l'enclave, entre les deux cercles de mise en jeu. Redirige la passe de Théo Rochette à la droite du gardien Lapena. Une passe également à Gabriel Montreuil à 5-54 à force égale. C'est l'égalité 2-2. Les Voltigeurs profitent d'un revirement dans le territoire des Remparts pour reprendre les devants 3-2. Charlie de Fonseca intercepte la passe d'Édouard Cournoyer et bat le gardien Sigouin. Deuxième dans le match pour de Fonseca, but marqué sans aide à 7 minutes 44. 3-2 Drummondville. Puis en avantage numérique, les Remparts créent l'égalité à nouveau. Cole Cormier un tir précis par-dessus l'épaule droite du gardien Lapena. Cormier sur des aides de Malatesta et Mariala à 14-05. 3-3, c'est la marque après deux périodes. Et tirs au but en deuxième, 20 par les Remparts et 7 par les Voltigeurs. C'est donc 29-19 après deux périodes. En troisième, on ne fait pas de maître. C'est toujours 3-3 après 60 minutes de jeu. 13 tirs au but par les Voltigeurs en troisième pour 32 au total. 7 par les Remparts pour 36 après trois périodes. Puis en prolongation, en avantage numérique pendant une punition à Connor Shortall pour avoir retardé la partie après avoir envoyé la rondelle dans les gradins. Viliami Mariala, comme il l'a fait à quelques reprises cette saison, ramène la rondelle le long de ses patins. Il va d'un tir des poignets précis pour battre le gardien Lapena à sa gauche. Un premier au cours des présentes séries pour Mariala. Des passes à Noss et à Rochette en avantage numérique à 10 minutes 13 du début de la période de prolongation. 4-3, la marque finale. Les tirs au but en prolongation, 4 par les Remparts pour 40 au total. 3 par les Voltigeurs pour 35 au total dans le match. 2-3, les Remparts en avantage numérique. 1-3, les Voltigeurs et les trois étoiles de la rencontre. La troisième, James Malatesta des Remparts. La deuxième avec deux buts, Charlie de Fonseca des Voltigeurs. Et la première avec le but gagnant en plus de deux aides, Viliami Mariala des Remparts. Les Remparts prennent les devants 1-0 dans cette série 3-5 qui se poursuit demain pour le match numéro 2. Toujours en direct de l'environnement protégé du centre Marcel Dionne de Drummondville. On y sera à compter de 18h45 pour l'émission d'avant-match, 19h pour le début de la rencontre sur les ondes de Chiz 94,3. Ben, c'est un match qui a répondu aux attentes dans cette série, c'est-à-dire que on s'attend à une série très serrée, deux équipes qui se ressemblent, qui sont équipées à peu près de la même façon, de bons gardiens de but, des jeunes joueurs qui ont connu une bonne saison, et ça nous a donné un excellent match de hockey cet après-midi au centre Marcel Dionne de Drummondville. Il y a juste à souhaiter que l'on puisse répéter demain pour le match numéro 2 de cette série. Une dernière fois, la marque finale, les Remparts 4, les Voltigeurs 3. Merci à Alex Baillargeon à l'opération, réalisation du reportage dans les studios de Chiz 94,3. Merci à vous d'avoir été là, et on se retrouve demain soir, 18h45 pour l'émission d'avant-match. D'ici là, bonne fin de journée et à demain. Bye bye.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. Chérie, j'arrive. C'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec.
En semaine, dès 16h, à Chiz 94.3.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Chiz 94.3.
À Chiz, on redéfinit ta conception d'une soirée canadienne.
Écoute locale. Écoute Chiz 94.3.
Écoutez, conduite anti-sportive sur les ondes de Chiz 94.3. Je suis en compagnie de mon acolyte de toujours, Jonathan Paradis.
Comment bonsoir.
Ça va? Ça va, yes. On vient de finir le match des remparts en studio.
Yes.
Alors que c'était une fin de match survoltée. Comme moi parce que j'ai trop bu de café. donc les remparts qui l'emportent en prolongation. Quelle fin de match.
Il est mieux tard que jamais. Nous sommes là aussi.
Effectivement, on attendait la fin du match. J'étais assez à l'arrache. Merci. Et justement, pour célébrer la fin des remparts, la fin du match, on s'en va écouter Dodo Bees avec Game Over parce que le match est terminé. Vous écoutez Conduite Antisportive.
I'm out. Game over, game over, game over. Même pas de pointement, officiellement, ouais, je suis out. Game over, game over, game over. J'ai callé mon boss, il me casse comme fuck it, I'm out. Game over, game over, game over. C'est même pas de marche, ouais, mon ouais, je suis out. Game over, game over, game over. All of my clothes got stank on them. J'reviens d'un autre monde with stone and I got this hangover. Hang on me, hang on me. Damn if I do, damn if I don't. Damn if I can't, then shame on me. Là j'ai pour partir on tour, what I heard was bane on me. Now, killing them shows, Metropolis explodes, go bane on me. Knock shit up, my wiggle boy stuff is staying on. Game over, done playing, I'm out. Game over, game over, game over.
Même pas de pognon, mais officiellement, wiggle shit out.
Game over, game over, game over.
J'ai callé mon boss, il me gosse comme fuck it, I'm out. Say man, but no shine on with a shit out.
Game over, game over, game over.
Yeah. Out.
J'suis parti sans moi tourner, babe. Vraiment désolé, là, ça va tout. Même rendu là, j'suis pas pour me plaindre. Avant de me plaindre, moi j'vais faire un mot. Et c'est que j'suis un rider. Pris une main sur mon rider. Pointe-moi qui pourrait faire mieux. Juste passe-moi un lighter. Ça fait effet, le plafond est wet. Va danser sur moi jusqu'à ce qu'on le fait. J'suis en plein de gens, le garçon qu'ils cherchent. Devine tout ça, juste la façon qu'ils me check. Et ça grippait à mes fesses. Ça c'est pour tous les sacrifices que j'ai fait. Yeah, baby, viens me donner un bang. I'm out.
Essayez même pas de me rejoindre, j'en plug à mon fond. M'en va m'enfiler mon 3P pis m'en va le bain, no. Another one, then another one, another one. M'en va pas faire la glace, no tomorrow. Ain't que moi pis moi.
shit avec moi pour moi. Faire mes shit alone. Ça fait tellement longtemps, tellement, tellement long que je fais shit. Mais pour les autres, my nigga. Tellement de pressure sur le dos, my nigga. Le temps change, là, je suis up to something, nigga. End of the game, moi je m'en vais live. I'm out. Même pas de pogging, man, officiellement, wigga, j'suis out.
Game over, game over, game over.
J'ai callé mon boss, c'est une gosse, come fuck it, I'm out.
Game over, game over, game over.
Say même pas de m'en rejoindre, mon wigga, j'suis out.
Game over.
Vous êtes de retour à Conduite Antisportive sur les ondes de Schiste 94.3. Jonathan, tu m'as préparé une chronique nostalgique et éphéméride sur d'anciens joueurs des Remparts, justement, alors que le match vient de se terminer. Et on s'en va entendre un de ceux-là. Hein? Qu'est-ce que t'en penses?
Classique.
Ouais, classique, à chaque semaine, je pense, depuis quelques,
vas-y, ça
quelques
va être
temps.
Fait.
Ouais, c'est qui?
Ici Jonathan Marchessault des Golden Knights de Las Vegas. Vous écoutez Schiste 94.3, la radio des Remparts de Québec.
C'est devenu une habitude d'entendre Jonathan Marchessault à Conduite Antisportive, lui qui a fait la pluie et le beau temps avec les Remparts à l'époque, qu'il était au rang junior. Jonathan, de quel joueur on va parler en ce moment là? De quel joueur on parle dans ta chronique d'anciens joueurs des Remparts qui maintenant ont des carrières plutôt prolifiques dans la Ligue nationale?
Ouais, quelques-uns d'entre eux, les souvenirs qui me reviennent là avec Rick Loutier à la description. Moi, j'étais un fervent partisan, surtout en 2014-2015.
Okay.
Quand ils se sont rendus, ils se sont inclinés malheureusement en deuxième prolongation, en septième match,
okay.
Lors de la finale contre Rimouski.
Ah oui, 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 celle-là.
C'était un gros moment pour moi, ça a été marqué dans mon cœur. Maintenant, les joueurs en ce moment
effectivement,
sont un peu plus inconnus,
ouais.
mais bon, une belle victoire pour eux, bien content. D'abord, on va rester dans le sujet avec leur entraîneur-chef avant d'aller avec les joueurs. Patrick Roy, on a su qu'il cherche une job peut-être dans la NHL.
Oui, effectivement, il a signé avec une nouvelle firme en fait d'agence sportive au niveau du hockey.
Ouais, la PBI Sports and Entertainment.
C'est ça exactement, en guise de tremplin finalement pour possiblement un retour dans les niveaux professionnels et évidemment dans la Ligue nationale de hockey.
D'habitude, c'est quelque chose qui se fait quand même avec discrétion, là, les signatures comme
surtout
ça.
Surtout pour les entraîneurs, c'est très rare. Au niveau des joueurs, oui, les agences puis les firmes vont changer. Puis comme l'agence de Pat Brisson, qui a la moitié des joueurs dans la Ligue nationale ou presque, là, peut-être même 75% de tous les joueurs de la Ligue. Mais oui, au niveau des entraîneurs, c'est plutôt rare. C'est plutôt rare parce qu'effectivement, ils ont des agents au même titre que les joueurs parce que c'est des contrats faramineux qui sont donnés à nos entraîneurs dans la Ligue nationale de hockey. On parle de plusieurs millions de dollars, là.
On a venu attirer l'attention, d'après moi, pour plusieurs équipes. On le sait, là, Neil Glasberg, en fait, là, donc l'agent signé avec Patrick Roy. Il y a trois de ses clients qui ont écopé dernièrement. Jeff Ward avec Calgary, Kirk Muller avec le Canadien et Steve Smith à Buffalo aussi. Donc, ils s'attendent à ce que ça continue au cours des prochains mois.
Ouais, c'est ça.
Et l'année prochaine, il y a beaucoup d'équipes aussi qui n'ont pas d'entraîneur sous contrat, notamment le Canadien de Montréal qui est avec en intérim en ce moment.
Ouais, c'est ça, exactement.
Et on va en parler, là, c'est une coïncidence aussi.
Ouais, c'est peut-être un bon timing, finalement. Ouais. Hein? Qu'est-ce qu'on en pense?
Sinon, l'Arizona aussi, les Sabres de Buffalo, les Blue Jackets de Columbus, les Red Wings de Détroit et les Canucks de Vancouver n'ont toujours pas d'entraîneur l'année prochaine. Et Vancouver, d'après moi, les partisans sont très... sont très hâte de partir de leur entraîneur. Là, on avait une grande banderole dans le ciel écrit Fire, hashtag Fire Benning.
Ouais.
Qui est leur, en fait, ça, c'est le
directeur
DM,
général. Ouais. Par contre, ouais. Jim Benning est là depuis vraiment trop longtemps. Par contre, Travis Green, qui est l'entraîneur-chef, fait du bon boulot depuis quelques années. Il a amené ce club-là en série éliminatoire l'an dernier. Là, je pense que cette année, il n'y avait pas les bons outils et la formule ne marchait tout simplement pas. La sauce ne collait pas. Il s'est départi de Christopher Tanev aussi, un des grands défenseurs qui joue maintenant pour les Flames de Calgary, qui est un rival direct dans la division Nord.
Puis lui qu'on regrette le plus, c'est le fameux Talu Toffoli.
Talu Toffoli aussi, ligne et il y a comme Markstrom dans le filet. Avec Brennan Oldby, on a pris un risque alors que c'est un gardien vieillissant qui est très surévalué à mon humble avis, d'y aller dans un duo, un tandem de gardiens composé de Oldby et du jeune Thatcher Demko qui n'est visiblement pas prêt pour le poste de numéro 1, même si c'est le poste qu'il convoite et qu'il aura probablement dans les prochaines années. Je pense que on a pris un risque incalculé du côté des Canucks de Vancouver, surtout derrière le filet.
Donc ça pourrait être une destination possible pour lui là, ou même le Kraken qui se cherche toujours.
Tout à fait.
On a un top 2 en ce moment, là, on parle de Rob Brind'Amour avec les Hurricanes ou Gérard Gallant, mon entraîneur favori en fait, qui pourrait recommencer une autre dynastie comme il a fait avec Vegas. Sinon, même il a fait une super belle job aussi du côté de la Floride.
C'est un gars d'expansion, Gérard Gallant.
Ouais.
Mais il y en a beaucoup aussi qui le voient à Montréal, mais la seule contrainte qu'il a, c'est qu'il ne parle pas français, alors que c'est un critère d'emploi pour être entraîneur-chef du Canadien de Montréal.
Ouais, et justement, ça coïncide un peu avec les mauvais temps du Canadien. En ce moment, on sait qu'ils sont pas trop constants, là, victoire-défaite. Eh bien, ça a sonné une puce à l'oreille, peut-être, du côté de Patrick Roy. On sait aussi, lors de la première embauche, il savait manifester, en fait. Et là, il pourrait être soit entraîneur, mais il pourrait aussi terminer comme président des opérations hockey.
Ouais. Possiblement.
Comme GM aussi.
On sait que Patrick Roy, c'est un gars qui aime ça, avoir beaucoup de tâches et beaucoup de latitude et de pouvoir au sein d'une équipe.
Oui.
C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il avait quitté l'Avalanche du Colorado alors que Joe Sakic ne voulait pas lui donner le poste de directeur-gérant aussi.
Ouais, c'est en 2016.
C'est ça.
Justement, il avait aussi amené deux directeurs adjoints avec lui qui l'ont quitté même quelques années plus tard. Donc peut-être qu'il prenait un peu trop de place, pas assez d'un travail d'équipe aussi.
Je pense que c'est un secret de Polichinelle de dire que Patrick Roy est une tête forte, disons ça.
Ouais, c'est le cas de le dire. Et c'est ça, il y a une réputation un peu d'être quitté quand ça va mal, là, comme on avait cité des raisons personnelles en 2016.
Ouais.
Avec l'Avalanche Colorado.
Et en pourtant, ce club-là est en plein essor et en pleine ascension. Là. Les Nathan MacKinnon de ce monde se développaient. On venait de repêcher Mikko Rantanen. L'avenir était prometteur pour l'Avalanche, alors que ben, là, Patrick Roy n'a pas profité de cette belle ascension
non, là, c'est,
du club de Denver.
Bednar qui a ramassé un peu
Jared
Bednar. Cette belle équipe.
Effectivement.
Et c'est en tout cas on dit qu'il n'y a pas aucune communication en ce moment avec le Canadien, c'est ce qui est dit. Mais ça va être à voir. Donc Patrick Roy qui est sur le marché du travail.
De toute façon, à chaque fois que le poste est vacant ou libre ou va être vacant du côté du Canadien de Montréal, les noms circulent, les noms reviennent et c'est toujours une roue sans fin. On parle toujours de Bob Hartley qui est là maintenant en Russie, qui viendrait entraîner le Canadien de Montréal. On parle de Patrick Roy à chaque fois. C'est la même chose quand on avait congédié Michel Therrien pour finalement le remplacer par Claude Julien le lendemain ou le surlendemain. Je pense pas que Patrick Roy va entraîner le Canadien
de
Montréal.
Mais avec aussi Darrell Sutter qui est revenu dernièrement. Il y a beaucoup de retours. On sait jamais. Ça va être à voir.
Un dossier à suivre.
Mais ça n'est pas. Ça n'est pas. En tout cas, ça, c'est pas caché. C'est loin d'être un secret maintenant. Donc, avec les joueurs, un peu, je reviens avec la cohorte de 2014-2015.
On avait une chronique, là, Jonathan. On s'est égaré. Une longue parenthèse.
Très longue parenthèse, oui. J'ai même apporté mes petites cartes que j'avais aussi dans ce temps-là.
Oh,
là,
c'est
avec
bien cute.
Mes billets de saison.
Dans un plat de plastique, en plus. Wow.
Le tout gardé bien précieusement. Je vais commencer d'abord avec un des plus grands noms, je dirais, sorti de cette équipe, et c'est Anthony Duclair.
Tout à fait.
On se souvient, il était numéro 10 à l'époque, âgé maintenant de 25 ans, donc c'est pas mal la tranche d'âge des joueurs dont je vais vous parler. Désormais avec les Panthers de la Floride.
Il connaît une belle saison en plus, et les Panthers vont visiblement faire les séries éliminatoires pour la première fois depuis un bon bout de temps.
Ouais, très surprenant, le travail de Joel Quenneville fait son effet.
Effectivement. Et Anthony Duclair s'est trouvé une nouvelle vocation de passeur cette année, hein. Je crois que en temps normal, c'est plus un marqueur, un fin marqueur, même un marqueur redoutable, surtout en avantage numérique, en avantage de 5 hommes. Anthony Duclair, qui maintenant est devenu un passeur, et avec les Jonathan Huberdeau de ce monde et Alexander Barkov fait un méchant bon boulot et a beaucoup de temps de jeu quand même. Là, on frôle les 17-18 minutes par match.
Ouais, c'est un très bon constat. C'est ça, il y a 20 passes cette saison et 6 buts en 37 parties. Ça fait de lui un très bon passeur, comme on dit. Il est rendu à quasiment 400 parties déjà dans la Ligue nationale. On se souvient, il avait été repêché en 2013 par les Rangers du Texas.
Ouais, pour être finalement échangé au Coyote de l'Arizona.
Ouais, et oh, il a fait un bout de chemin, lui. Il en est à sa sixième équipe.
C'est un globe-trotteur, notre Anthony Duclair.
Puis 4 équipes aussi depuis 2018. Donc, il se promène beaucoup.
Par contre, là, il semble avoir trouvé sa niche alors qu'il a signé un contrat en tant qu'agent libre cet été avec les Panthers.
Il avait fait les deux dernières saisons avec Ottawa aussi. C'est des brèves aussi apparitions. Là. Avec Columbus, c'était 53 parties. Ouais. 23 avec Chicago aussi. Et les Coyotes aussi. Même Rangers, c'est seulement 18 parties.
Exactement. Je lui souhaite, en fait, de trouver sa niche pour plusieurs années. Je pense qu'il a besoin de stabilité dans sa vie, notre Anthony Duclair, alors qu'effectivement, il a bougé beaucoup depuis le début de sa carrière, alors qu'il a seulement 25 ans. Donc.
Ouais, il joue sur un bon trio aussi avec Jonathan Huberdeau. Il joue avec Sam Bennett aussi, nouvellement arrivé en Floride. Et comme moi, je le connaissais beaucoup comme un compteur de buts, justement, avec sa grande saison 2013-14 avec 50 buts dans la LHMQ. C'est énorme.
Oui, c'est énorme, effectivement.
Avec quasiment 100 points, oui.
On le voyait, je me rappelle à l'époque de son année de repêchage à 17 ans. On voyait Anthony Duclair comme un choix potentiel de première ronde, mais son éthique de travail était sensiblement à désirer, du moins c'est ce que les entraîneurs laissaient entendre. Et Anthony Duclair a chuté. En fait, il a été repêché en troisième ronde, si je ne m'abuse, par les Rangers, justement, t'en parlais tout à l'heure.
80e position.
Exact, troisième ronde. Anthony Duclair, ça a toujours été un peu ça le problème. Il a la tendance à se traîner les bottines ou les patins, en l'occurrence. Et ben, à manquer quelques chiffres, à manquer quelques tours de présence sur la glace. C'est d'ailleurs ce qui lui a fait un court voyage à Columbus sous les règnes de John Tortorella, qui n'aime pas vraiment ces joueurs qui ne prennent pas tous les chiffres à cœur.
En effet. Puis là, il se remet d'une blessure en ce moment au haut du corps. On a vu dans la vidéo, il rentre assez solidement dans la bande derrière le but adverse. Et là, il est revenu depuis le 12 avril et 8 points depuis ce temps-là. Donc ça va bien chez notre cher Anthony Duclair. Comme tu dis, dans une équipe qui se porte bien aussi, qui devrait avoir une bonne lancée en série.
On leur souhaite aux Panthers de la Floride qui sont dus, comme on dit.
Adam Ernie, maintenant, ça vous sonne des cloches. 26 ans, donc un attaquant numéro 73, né au Connecticut. Maintenant, il est désormais avec les Red Wings de Détroit. On le connaît notamment plus pour sa présence avec le Lightning de Tampa Bay. Il est rendu à 212 matchs maintenant en carrière, donc 26 buts, 25 passes. Et cette année, il y a 11 buts, 8 passes. Donc c'est quand même une bonne...
C'est un bon rendement pour un joueur de 3-4e trio, donc un employé de soutien, comme on dit. Faut dire que il a adapté son jeu à la Ligue nationale, Adam Ernie, qui a joué un petit peu dans la Ligue américaine aussi. Adam Ernie, qui était un marqueur, qui était un fin passeur aussi, c'est un joueur complet offensif qui était sous toutes les vagues d'avantages numériques à son époque junior. Et ben pour s'adapter, c'est quand même un gros bonhomme. On parle de 6 pieds, 6 pieds 1. Là. C'est un gros bonhomme qui a adapté son jeu pour finalement gagner son temps de jeu sur un 3-4e trio et aller jouer en désavantage numérique, entre autres. C'est ce qu'il fait d'ailleurs avec les Red Wings.
Oui, certainement. Commencer avec une équipe quand même assez chargée là, avec le Lightning.
Oui, c'est clair qu'il pouvait pas rester toute sa carrière avec le Lightning. Non. Il aurait croupi dans la Ligue américaine plus tôt que tard.
C'est sûr. En ce moment, je trouve qu'il fait bien sa place. On entend quand même parler de lui, notamment c'est ça, à Détroit. Ça va super bien. Depuis, il donne une petite passe so-so, là, avec ils ont joué leurs 4 derniers matchs contre Dallas, les Stars, puis plus des fiches, moins dans le différentiel. Mais ça devrait...
Les Stars sont sur une belle lancée, d'ailleurs. Là, si
ça devrait reprendre. De toute façon, on sait que les Red Wings ne se battent pas pour une place en série. Ils ont été éliminés, en fait, officiellement hier ou avant-hier, si je me trompe pas. Donc... C'est dommage pour eux, mais on savait tous qu'il n'y avait pas nécessairement les outils pour
effectivement, les
joueurs.
Red Wings qui jouent les troubles-fêtes d'ici la fin de la saison, c'est le cas de le dire.
Comme ils le font depuis quelques années.
Ouais, un peu comme les Sénateurs d'Ottawa en ce moment.
Ouais. Il avait gagné aussi le MVP donc de la Ligue, le trophée Guy Lafleur.
Ouais, Adam Ernie quand même. Hein?
C'est une bonne mention aussi. Et il s'est blessé la main... il s'est cassé la main en bloquant un tir de Mike Riley. Donc ça n'a pas dû faire du bien... venant de ce grand costaud,
ouais.
Le 29 février 2020. Donc okay. Là, il s'en est remis depuis.
Mais quand même, c'est le genre de blessure qui peut affecter ton jeu considérablement. Là, on pense à Jonathan Drouin qui s'est fracturé le poignet là, l'an dernier, je pense.
Ou Aston Matthews qui est blessé aussi.
Ouais, aussi, c'est des blessures qui peuvent effectivement ajuster surtout ton tir. Là, donc, on souhaite un bon rétablissement, un prompt rétablissement à Adam Ernie.
Un prompt rétablissement, certainement.
Ouais, yes.
Et mon préféré, en fait, vraiment de cœur, c'est un défenseur, celui-là, numéro 27, donc Ryan Graves. Il évolue en ce moment avec l'Avalanche du Colorado. Donc, un grand costaud né au Nouvelle-Écosse. Il rendra 140 parties en ce moment avec dans les ligues majeures. 13 buts, 31 passes. Et là, en ce moment, il est en danger un peu. Là, on entend parler à cause du repêchage d'expansion
qui
est
arrivé.
Là, on hésite entre... On préfère protéger, en fait, Devin Taze. Là, il y a lui puis Jacob McDonald qui risque d'être mis sous la...
Effectivement, j'avoue, avec la brigade défensive de l'Avalanche composée de Kale Makar, Samuel Girard, aussi, entre autres, et on veut protéger Bowen Barham, qui est la nouvelle flamme, le jeune joueur qui vient de se joindre à l'équipe. La défense est bien nantie à Colorado. Effectivement, peut-être que c'est Ryan Graves qui écopera. Encore là, c'est pas un mauvais move. Je pense que c'est peut-être même un bon développement pour sa carrière de se joindre au Kraken.
Ouais, c'est,
alors
c'est,
qu'il
c'est,
aura clairement mauvais. Beaucoup de temps de jeu et peut-être même une présence sur la première paire de défenseurs.
Ouais, ça pourrait être définitivement bon pour lui. On se souvient dans l'année dont je vous parle, 2014-2015, avec les Remparts, il avait connu une super belle saison. 15 buts, 24 passes, différentiel de plus 17 aussi, 11 points en séries éliminatoires aussi. Donc, il a été très, très, très utile à l'équipe. Puis, il était vraiment impressionnant à voir sur la glace aussi, là, pour ne pas avoir manqué un seul match de la saison. Il était toujours présent, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose qui passait au travers. Donc, bien content pour lui, qui se porte bien dans la Ligue nationale. Et en ce moment, il a juste joué, en fait, pour cette équipe-là aussi. Donc, contrairement à Duclair qui se promène un peu. Il a aussi été repêché par les Rangers de New York.
Ouais.
C'était en quatrième ronde, 110e en tout. Et donc, c'est ce qui fait un petit portrait de notre défenseur Ryan Graves.
Yes.
Numéro 27. Et je termine avec Zachary Foukalé.
Ben oui, tu le sors des boulamites, là, Zachary Foukalé. Qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là?
Ben là, en ce moment, il est dans l'organisation des Capitals de Washington, mais il évolue dans l'équipe mineure, donc les Bears de Hershey.
Oui, OK.
Et ben là, on se souvient, Zachary Foukalé, il a quand même eu des bonnes années. En 2014-2015, entre autres, dans le championnat mondial junior.
C'est
bien fait, donc en 9 parties. En ce moment, 9 parties avec les Bears, 7 saisons, donc 937 d'efficacité. Et il s'est promené beaucoup dans les ligues mineures, en fait.
Okay.
C'est pour ça qu'on dit qu'on le voit pas beaucoup. Là. Il y a beaucoup la AHL, la ECHL aussi.
Dans la East Coast,
notamment
ouais.
Les Ice Caps de Saint-John, 2 saisons. Le Beast, les Comets, les Wolves, les Solar Bears, le Crunch, les Stingrays. Le Rocket de Laval également, en 2017-2018. Donc, c'est une bonne brochette d'équipe mineure.
À l'image d'Anthony Duclair, il a voyagé beaucoup, mais à défaut de voyager en avion, il a voyagé en autobus.
Ouais, ouais c'est ça. En plein ça. Donc, c'est ce qui se traque avec lui.
Zach Foukalé qui a gagné la Coupe des présidents avec le Moussets d'Halifax. Si je me trompe pas aussi, il a joué la moitié de sa carrière junior avec les Moussets d'Halifax, donc ouais.
Ouais, c'était pas avec les Remparts.
Il a été connu beaucoup pour sa carrière avec les Moussets d'Halifax, effectivement. Hey Jonathan, on s'en va en bloc publicitaire et au retour, on parle de baseball.
Yeah!
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Au Club Critique, on donne toujours notre 110%.
Cette tune-là fait clairement pas les ligues majeures.
On a la meilleure équipe.
Quand j'ai écouté ça, j'ai pogné un méchant 2 minutes pour interférent.
Au cœur de l'action,
je fais une passe sur la palette. Je veux plus rien savoir de cet album-là.
Pour vous donner une information claire sur les nouveaux joueurs musicaux.
Fondateur
des mises en échec jusqu'aux étoiles du match.
Partir de là, je vais prendre à mon équipe demain matin.
Guillaume, Gabriel,
Émilie.
On va la mettre dans le net top corner.
Tous les mercredis, 13h.
Tu sais, cet ami gossant qui, dans toutes les conversations, finit par dire « C'est comme dans le livre d'un tel ou dans le film d'un autre. » Ben, la planète des sages, c'est 7 amis en 3 exemplaires qui prennent une heure d'espace radio pour jaser d'un tel. Chaque semaine, le mardi à 10h, on convoque une figure populaire et on approche naïvement son œuvre. On se retrouve sur la planète des sages à Chiz 94.3.
Franchement, ça parle même pas français pour commencer. Les Canadiens de Montréal, à part les remparts, là, c'est quoi qui est intéressant dans le hockey, là?
Qu'est-ce qui est intéressant au hockey à part les remparts, hein, Jonathan? Vous écoutez Conduite Antisportive sur les zones de Chiz 94.3. Après le match des remparts, là, on a fait un petit portrait éphémérite de plusieurs joueurs des remparts. Où sont-ils devenus? Où sont-ils rendus? On a parlé de Zachary Foucalé, Anthony Duclair, Adam Ernie et de Ryan Graves. Des portraits gracieusetés de Jonathan Paradis avec moi aujourd'hui. À noter la présence, l'absence plutôt de Pierre-Alexandre Tremblay, notre ailier gauche qui complète le trio normalement, qui a des obligations scolaire aujourd'hui, mais qui raffole de parler de baseball. Et bien là, en son honneur, on va parler de notre sport préféré ici à Conduite Antisportive du mardi, du moins, hein, l'édition du 27 avril. Jonathan,
J'ai copié de ma première défaite dans notre pool baseball.
C'est vrai, c'est
notre,
vrai.
Contre un jeune c'est qui, en fait, car c'est juste toi que je connais dans le pool.
Ouais, j'ai initié à ce concept-là de fantasy baseball. Donc, ta fiche immaculée n'est plus, Jonathan.
Et non.
Donc ouais, tantôt on s'est amusé, on a fait un petit jeu là, avant qu'on rentre en studio. On s'est amusé à trouver, dénicher des clubs qui nous surprennent et d'autres qui nous surprennent par leur médiocrité, disons ça. Donc des clubs qui nous étonnent par leur série de victoires et d'autres par leur série de défaites. Jonathan, on parle aussi de peut-être quelques joueurs, là. J'ai quelques noms sous mon radar, disons ça. Sur mon radar, disons ça, plutôt. Donc, ouais, on commence avec des clubs de baseball dans la Ligue nationale. Je pensais parler des Giants de San Francisco. Pas de Giants de New York, là, on parle pas de football encore. Les Mais Giants de San Francisco qui ont un début de saison, ma foi, plus qu'étonnant. Alors que des joueurs comme Evan Longoria ont littéralement calé de l'eau de la fontaine de Jouvence. Je sais pas ce qui se passe avec ce club-là, mais des gars comme Brandon Belt aussi, Brandon Crawford, qui normalement ne sont plus l'ombre d'eux-mêmes, qui redeviennent des joueurs d'impact là, avec les Giants, et avec des Kevin Gausman derrière le monticule qui lance du feu et qui n'est pratiquement pas frappable.
Ouais, Longoria qui revient d'une blessure aussi, là. 3 matchs de manqué depuis, il frappe.
Écoute, hier soir, 2-2, un but sur balle, 2 ouais. points produits. N'est pas atteignable notre Evan Longoria, qui est un joueur que t'aimes bien parce qu'il a gagné ses lettres de noblesse avec les Rays de Tampa
Bay. Ouais, il avait des bonnes années.
Ton club de cœur.
Et oui, et c'est bien que ça se poursuive en ce moment. C'est pas tout l'alignement du côté des Giants qui fournit, mais si lui, il peut. En tout cas, il est capable d'en prendre, on le sait. Moi, je ne crois pas que c'est permanent pour les Giants. Là, en ce moment, ils se trouvent au premier rang, même en fait, égal avec les Dodgers, mais dans une division aussi complète là, avec les Dodgers et les Padres. On sait Slam Diego.
Ouais.
D'après
ouais.
moi, on va descendre très rapidement.
Tout à fait, tout à fait. 15 victoires, 8 défaites pour les Giants en ce moment. Un différentiel un pourcentage de victoires de 652. Une fiche à domicile de 9 victoires et seulement 2 défaites. Écoute, c'est clairement pas une non, séquence à long terme pour les Giants. Malheureusement, un club qui... un peu à l'image de ce qu'on parlait avec le hockey tantôt, un club qui peut jouer les troubles fêtes, là, peut-être même... au meilleur de leur forme, gagner et batailler pour une place de meilleur deuxième dans la nationale.
Une saison 162 matchs, donc c'est sûr que chaque équipe va connaître pas une belle séquence ou une moins bonne séquence.
Tout à fait.
On peut pas, puis ça change tellement rapidement chaque jour avec les blessures. Et, donc,
faut pas se fier au classement en ce moment. 162 matchs, c'est éternel, c'est interminable une saison de baseball et c'est ce qui différencie les clubs.
Comme
qui sont...
si on parle des clubs que j'ai parlé la semaine dernière qui allaient bien, puis on les compare à aujourd'hui, c'est une autre histoire. Là. Les Reds de Cincinnati qui étaient premiers quand j'en ai parlé, sont rendus derniers. C'est un gros, gros changement de cap. Et c'est la même chose, je crois, pour les Giants qui va se passer.
Exactement. Le classement de la Ligue de baseball majeure, c'est aussi stable que les Bitcoins ou la bourse, là, je veux dire. Ça varie constamment, là, c'est ça.
Il y a les Royals, par exemple, qui demeurent premiers, 5 victoires de suite en ce moment. Ils ont connu leur premier balayage sur la route depuis 1999. pas si pire.
Ouais,
deuxième même, dans l'américaine aussi. En Brad Keller, on s'en souvient. Mais même tous les partants, en fait, là, sont...
Ah oui, définitivement. Pitching is the name of the game pour les Royals de Kansas City. Surtout la relève. Ouais. Quelle relève? C'est littéralement... impeccable là, du côté des Royals.
J'avais parlé d'un record que les releveurs tenaient la semaine dernière avec 54 victoires de suite quand ils mènent après 7 manches.
Ouais.
On est rendu à 58 victoires de suite. Fait que ça continue, ça. On a deux matchs à venir contre les Pirates. Donc, deux match-ups assez spéciales. Donc, Interligue. Ça, d'après moi, c'est une équipe qui va pouvoir continuer à dominer.
Les Royals, effectivement. Et si leur grand droitier qui termine les matchs, le closer, Josh Stoneman, peut continuer sa belle séquence. Il est âgé de 27 ans, d'ailleurs, assez jeune. Il lance des balles à sensiblement 99-100 000 à l'heure. C'est un gars qui a du gaz dans le réservoir et du feu dans le bras, littéralement. Donc, c'est un peu la valeur sûre en fin de 9e pour les Royals. Et bien, à date, ça paye.
Ah, puis si l'attaque peut, si l'offensive peut fournir avec Mondesi et Salvador Perez aussi, on est poursuivi un peu par les White Sox Indians. Est-ce que tu crois qu'ils vont rester au top?
Ça va être difficile pour les Royals. Tu parles justement du bâton. C'est là mon point d'interrogation. Même s'ils ont fait plein de belles acquisitions en. Notamment Carlos Santana, le fameux guitariste, notre joueur de premier but.
À ne pas confondre.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est un peu le gag que je fais à chaque fois que je parle de Carlos Santana, le joueur de baseball. Carlos Santana, qui est un ancien catcher des Indians de Cleveland aussi. Maintenant, il joue premier but et frappeur désigné vu qu'il joue dans
phénoménal.
Ouais, c'est un gars de moyenne. Puis fait divers assez intéressant. Il frappe les deux côtés. C'est un frappeur ambidex. Et c'est un des frappeurs ambidex les plus prolifiques en carrière dans la ligue, dans l'histoire de la Ligue nationale de baseball. Un excellent frappeur qui ajoute une profondeur à ce club-là. Par contre, il y a plusieurs points d'interrogation. Jorge Soler, qui est un gars qui frappe beaucoup de circuits, on le sait, mais qui a un ratio de but sur balle, retrait sur des prises, assez détestable pour un entraîneur très, très, très médiocre. Andrew Benintendi aussi, qui se fait passer dans la mythe plus souvent qu'autrement. Le poids de cette équipe-là est clairement sur un gars comme Whit Merrifield, qui est le frappeur, le joueur de concession.
J'ai dit Mondesi, mais
Mondesi, ouais, Mondesi va le début.
J'avais plus Merrifield
Mondesi,
en tête.
Ouais. Mondesi va le début, Merrifield va le début et frappe bien. Tu sais, c'est un peu.
Ça a toujours été une équipe rapide aussi.
Le joueur parfait. C'est une équipe très rapide. C'est l'équipe qui vole le plus de buts depuis plusieurs années avec Billy Hamilton à l'époque aussi. Les Royals, pour moi. Ça ne durera pas avec surtout des clubs, justement, tu en as parlé un petit peu comme les White Sox. D'après moi, ça passera pas au total d'une saison de 162 matchs.
Tout comme les Mariners, je dirais que ça me fait penser à ces équipes-là. Ils connaissent souvent un bon début de saison.
Exact.
Ils souvent donnent beaucoup d'espoir à leurs partisans et sont très, très, très décevants.
C'est un club agace, finalement.
Ouais, pour continuer la saison.
Ouais,
ou le contraire avec les Nationals de Washington, qui connaissent très souvent des débuts de saison médiocre et finalement remonte tout le temps la pente assez facilement. Ils ont beaucoup de blessures aussi, mais d'un coup que les joueurs reviennent un par un, c'est parti pour la gloire.
Ah oui, effectivement. Tu parlais des Mariners. Les Mariners qui...
13 victoires, 10 défaites.
Ça va encore bien. Dans leurs 10 derniers matchs, par contre, c'est un peu plus en dents de scie. Mi-chaud, mi-froid, 5 victoires, 5 défaites. 13 victoires, 10 défaites, la fiche totale des Mariners, un pourcentage de victoires de 565. Ils sont deux matchs derrière les meneurs de leur division dans l'ouest de l'américaine, les Aces d'Oakland, qui sont...
Qui, wow, ouais.
Sont inatteignables, imbattables.
Qu'est-ce que c'est de victoires de 13 matchs? C'est ça que je te disais avant d'entrer en non, justement, j'écoutais le fameux film de baseball Moneyball il y a deux semaines qui
écoute,
voit les Athletics voir une séquence de victoires de 17 parties, si je ne me trompe pas.
Tout à fait, c'est Moneyball in real life. Là.
Ouais, je revoyais un double scénario se reproduire. Malheureusement, ça s'est terminé dimanche contre les Orioles. Assez sauvagement, c'est en fin de match, là, 8-2, ça a terminé sec.
Quand même une séquence de 13 victoires, c'est...
Ouais, puis ils se reprennent contre Tampa Bay à contre-cœur, là, ça se passe bien. Ils ont gagné encore hier, les lanceurs se présentent, ça va super bien. Sean Manea hier... qui...
Chris Bassett aussi lance bien. Ouais. Tous les lanceurs des Jesus Lazardo, il y a peut-être Frankie Montas qui devrait peut-être laisser sa place dans la rotation, mais on à suivre.
On parle de l'équipe qui a connu le pire début de saison aussi.
Oui, en plus.
Je crois qu'il y avait une séquence de 5, 6, 7, 8 défaites de suite pour commencer la saison. Fait que un gros revirement de situation.
Et maintenant, ne perdre plus.
Mais un gars d'expérience là aussi avec... leur entraîneur, Rob Melvin.
Oui, Rob Melvin, effectivement. Ouais.
Je me doutais que ça allait revirer de côté. Là. C'était... Puis on sait qu'il prend pas ça en panique non plus. Puis c'est des jeunes joueurs. Ça...
Oui, c'est des jeunes joueurs, mais d'un club très pro et bien encadré. Avec une éthique de travail impeccable, surtout, je pense, dans le conditionnement physique aussi. Et ça se reflète sur le terrain.
En effet. Au niveau des équipes, ça fait un portrait. J'aimerais... moi, j'ai 4-5 joueurs.
Je voulais parler des Red Sox aussi.
Ah, ben
pas
oui,
si vite, pas si vite, Jonathan. Les Red Sox de Boston au crime. Ils sont meneurs dans l'Américaine, dans l'Est de l'Américaine.
Ils se sont fait balayer crime en début de saison par les Orioles de Baltimore.
Ah oui, on pensait pas que ce club-là allait mener après 20 matchs, là. Loin de là. Les Red Sox, 14 victoires, 9 défaites, un pourcentage de victoires de 609 à domicile. Ben c'est en deux teintes, 8-8 à l'extérieur sur la route. C'est 6 victoires, 1 défaite, donc très fort à l'étranger. Les Red Sox de Boston, menés par Alex Cora, qui est de retour derrière le banc, ça paraît énormément. On en a parlé un petit peu. Toi, tu l'aimes pas dans... En fait, t'aimes pas les Red Sox, Jonathan, clairement pas.
Mais j'aime pas non plus les Astros.
Les tricheurs, c'est différent. Un club de poubelle, ça, c'est autre chose. Les Red Sox, eux, ne trichent pas au moins. Ah, mais effectivement, Alex Cora a été un peu dans ce scandale-là. Mais oui, les Red Sox, moi, ils m'étonnent énormément, surtout dans une division aussi relevée. Là.
On avait parlé de J.D. Martinez aussi, qui frappe comme un monstre.
J.D. Martinez, là, si la tendance se maintient, risque d'avoir quelques votes pour le MVP dans l'Américaine, visiblement. Si la tendance se maintient.
Ouais, ça serait un super bon candidat.
Tout à fait.
Si il maintient... Il n'a pas toujours été constant là, non, lors de
ça.
Sa carrière. Donc.
Effectivement, t'as raison. Un dossier à suivre encore pour J.D. Martinez et les Red Sox, les bas rouges.
On va les voir affronter les deux prochains matchs contre les Mets de New York, donc un rare affrontement encore. Ça risque d'être très intéressant.
Intraligue.
Interligue. T'es prêt pour les joueurs?
Oui, on se lance.
Okay. Le premier que j'ai en tête, c'est Corbin Burnes, Brewers de Milwaukee.
Ouais.
Un début de saison, 49 retraits au bâton et zéro walks, zéro comment...
but sur balle. Toujours là pour traduire tes phrases, Jonathan.
Mais je suis pas super aujourd'hui. Ça
oui, pas beaucoup d'anglicisme, tu t'améliores.
Moi qui suis beaucoup ce sport en anglais.
Oui, je comprends. Moi aussi, je fais ça.
Comme on peut voir. Et super début de saison avec les Brewers. À voir, ça va continuer. C'est un record phénoménal, en fait. Là. C'est...
Tout à fait. Par contre, Corbin Burnes nous avait donné un bel aperçu de l'étendue de son talent l'an dernier, alors qu'en 2020... moyenne de points mérités de 2,11, qui est très très bas, en quoi 59 manches lancées, c'est pas mauvais du tout. On parle de quoi 12 matchs, il avait 4 victoires, 1 défaite. Donc c'est un peu la continuation de la courte saison l'an dernier, là, je pense, pour Corbin Burnes. Et bien, il mérite et savoure, rien de moins. Corbin Burnes, Colin, c'est impossible de le frapper en ce moment, un whip de 0,5, là. Il y a aucun gars qui se rend sur les buts contre Corbin Burnes en ce moment.
Très impressionnant. Puis ça, il contrôle très bien la balle aussi. Aucun but sur balle, c'est très impressionnant. Ça veut dire qu'il contrôle. Il y a c'est un bon contrôle de sa zone. Et est-ce que tu crois que c'est un feu d'artifice qui serait,
ou un feu de Bengale?
Qui serait dit éphémère, à court terme, ou un feu de Bengale qui dure un peu plus longtemps?
Je pense que ça va être un feu d'artifice. Ouais. Je pense que ça va être un feu de joie, un feu de camp. D'après moi, Corbin Burnes. Avec justement l'aperçu qu'on a eu, le trailer, si on veut, le sneak peek de la saison dernière, je pense que ça va durer, surtout que on est bien entouré quand même à Milwaukee, même si c'est un club qui frappe pas nécessairement beaucoup.
Rotation... Yelich avec son dos encore.
Oui, Yelich qui devrait revenir éventuellement. C'est vraiment un club qui frappe pas tellement. Par contre, la relève est excellente. Les Devon Williams, les Josh Hader. La rotation est super belle aussi. Et Corbin Burnes, contrairement à plusieurs os qui sont un peu le noyau d'une rotation. Corbin Burnes est presque le deuxième lanceur derrière Brendan Woodruff. Donc, il a moins de pression que plusieurs très bons lanceurs dans la ligue. Donc, je pense que ça peut jouer en la faveur de Corbin Burnes, qui, d'après moi, devrait se retrouver même sur le vote et la liste de candidats pour le Cy Young.
Mmh. Oui, je suis totalement d'accord. Ouais. As-tu un joueur en tête?
Qu'on voudrait jaser? Peut-être. Il y a un gars qui me parle encore. Là, j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière. Patrick Corbin, des Nationals de Washington.
Il à la s'est négative,
fait poivrer avant hier. Patrick Corbin, écoutez, qui est un lanceur. Là, normalement, justement, on parlait de Cy Young. C'est un candidat à chaque année ou presque là, depuis quelques années. En tout cas, 2018-2019, il était dans la liste, dans les top 11, top 12. Maintenant, là, cette saison, ça va vraiment pas bien. ERA de 10.47 en 4 départs.
Ouais.
3 défaites. Il a un whip de 2, littéralement. Donc, c'est ridicule. On parle de plusieurs gars qui se rendent sur les chantiers. Il donne beaucoup de buts sur balle aussi. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Il a donné 10 buts sur balle déjà en 3 départs, là. Notre Patrick Corbin, Corbin Burnes, à ne pas confondre avec
Corbin
Burnes.
J'avais prédit la semaine dernière qu'il remonterait la pente.
C'est ça.
Aucunement.
Ça me surprend. Écoute, faut dire que là, les Nationals, ça va pas super bien. Ils ont perdu les services de Juan Soto, à mon grand désarroi.
Ouais, c'est vrai. ton premier joueur de.
Oui, mon premier choix au repêchage dans ce fantasy baseball-là, qui est un désastre, littéralement. Je perds à chaque semaine. Mais ça, c'est pas simplement de la faute de Juan Soto. Donc, ouais, les Nationals qui ne vont vraiment pas bien. Ben, tu sais, pas vraiment, mais vraiment pas bien. Là, on a quand même un bon club de balle, surtout avec les Trey Turner de ce monde. Trey Turner, un peu que le poids du monde sur ses épaules, en tout cas, le poids de ce club-là, en ce moment, surtout quand Juan Soto est blessé.
L'équipe qui a commencé terrassée par la COVID-19 aussi.
Aussi, en plus, qu'en entraînement en dents de scie, littéralement.
Sont derrière les Marlins de Miami.
Stephen Strasburg aussi qui est blessé depuis 2 semaines déjà. La rotation en prend pour son rhume. Là, à part Max Scherzer qui fait bien, c'est le seul.
C'est comme on dit, c'est un mauvais début de saison. C'est pas catastrophique non plus, mais je suis habitué de voir ça des Nationals. C'est pas très, très, très surprenant.
Ouais.
Quand leur joueur étoile va revenir aussi avec Juan Soto, puis les lanceurs.
Quand Soto et Strasburg vont venir, là, normalement.
Ça devrait se replacer. Puis même prochainement, là, on va les voir ce soir affronter les Blue Jays de Toronto.
Ouais, crime.
Pas à Toronto, à Floride, qui est leur domicile temporaire.
Effectivement.
Pour la saison. Donc, ça va être à voir pour eux. Mais moi, je crois que c'est temporaire.
C'est quand même drôle, hein, parce que les Blue Jays ne jouent plus à Toronto depuis 2 ans. Ils ont joué à Buffalo l'an dernier.
Les Blue Jays d'un peu partout, là. Ouais.
Pauvres Blue Jays. Mais ouais, les Nationals, j'ai hâte de suivre le développement de la saison. C'est un cas intéressant parce que. Ils ont gagné la Série mondiale il y a quoi, 2 ans? 3 ans? Ça fait pas si longtemps, là.
En 2019.
Ouais, 2019, c'est ça déjà. Depuis, ça va pas super bien. On dirait que la perte de Anthony Rendon fait extrêmement mal à ce club-là. Je sais pas si tu te souviens un peu, Jonathan, lui qui avait signé avec les Angels de Los Angeles après la victoire en Série mondiale, qui était un peu, comment dire... La courroie, là, le pilier de cette équipe-là, surtout au troisième but, là, c'est une ventouse, là, littéralement une pieuvre, Anthony Rendon défensivement. Ça fait mal à la formation des Nationals qui se cherchent un peu en ce moment.
Ouais, ça a été un élément majeur lors de leur conquête des majeurs en 2019.
Exact.
Puis il y a un autre joueur que je pourrais parler, c'est Madison Bumgarner, qui a connu ses grandes années.
Ben oui, crime.
Plus en 2014-2015, lors de sa présence avec les Giants, notamment. Un no-hitter, et vous voyez pas les parenthèses, mais il y a des guillemets, en fait, qui sont mis.
Un match sans point ni coup sûr, mais...
En 7 manches.
Version programme double condensé COVID, ouais. Disons ça.
Il y a un programme double assez violent pour les Diamondbacks contre les Braves d'Atlanta. 7-0 pour cette partie, puis on les avait blanchis aussi.
Ouais.
le match d'avant ou d'après.
Contre toute attente, hein, on s'entend, là, les Braves qui sont une force dans les majeures.
Ce no-hitter aussi, contre toute attente, sur 98 lancés, comme tu dis, deux, une manche ou deux de plus. on parlerait peut-être d'une autre histoire en ce moment, mais...
Ça aurait peut-être fini 7-6.
Ouais.
Mais, j'exagère. Mais...
Ouais, probablement, mais c'est quand même tout de même surprenant quand on parlait de lui lors des dernières semaines comme un joueur qui a vraiment perdu vraiment tout son élan de
son aplomb
qu'il avait lors de ses dernières années, et là c'est revenu, c'est remonté à la surface
contre toute attente,
mais évidemment ça risque de replacer, là, je crois pas que c'est une performance qui...
Malheureusement.
Malheureusement, ça a été vraiment impressionnant pour eux. Et lui, il a dit qu'il aurait probablement pu le faire. Là. Il s'est dit, si je l'ai fait en 7 manches, pourquoi pas en 9?
Ouais, exactement. C'est clair. Par contre, c'est un gars qui, écoute, on s'entend, là, ses meilleures années sont derrière lui, et il n'a plus la même étoffe, surtout après la 5 ou 6e manche. Dès qu'il a atteint le seuil des 100 lancés, là, il a eu besoin de quoi? 120 lancés? Pour
98.
Faire 98, tu vois.
On était à la limite, là, c'est ça.
C'était vraiment à la limite de son de son switch, là, de sa transition vers un désastre total derrière le monticule. Madison Bumgarner, qui, avec une balle glissante qui a déjoué les lanceurs, les frappeurs, hein, c'est-à-dire depuis 10 ans presque, là, dans les majeures, n'a plus le même aplomb, puis sa balle bouge vraiment moins qu'avant. Je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'il se fait frapper beaucoup plus et qu'il se fait frapper des fly balls, donc des ballons.
C'est pas contre l'alignement non plus la plus offensive en ce moment, là, la plus... du côté de l'Arizona, il y a Kettle Marte qui frappe beaucoup, mais sinon...
Il
n'y
a pas beaucoup d'appui.
C'est pas ça. Un alignement là, que chaque joueur... T'es comme, oh ouais, okay, voir qu'il a arrêté tous ces joueurs-là au moins 3-4 fois par joueur. Ben là, on fait un peu moins avec ce match rétréci. C'est parce qu'il y avait deux matchs aussi.
Ouais,
maintenant, avec le nouveau règlement, quand deux parties
bizarre,
sont dans la même, dans la même journée...
C'est vraiment bizarre. Pourquoi pas faire 2-9 manches? Là, c'est...
Ouais, parce que ça rend le match un peu semi-officiel, comme on dit. Comme
moins,
là, ça,
moins pertinent.
C'est tout des statistiques, des données un peu...
Ouais, on s'entend... Normalement,
pas officiel, mais...
C'est ça. Normalement, les frappeurs ont... Dans un match normal qui finit comme 3-4, 4-5, avec un score intermédiaire, un score standard, les gars vont frapper 4 fois. Ils vont avoir 4 présences au bâton. Maintenant, avec un match de 7 manches, c'est parfois 2-3 maximum. En fait, je trouve ça un peu plate. Ouais.
Ouais, une question de ménager aussi, j'imagine, des lanceurs.
Ouais,
des
frappeurs, c'est clairement les lanceurs. C'est clairement les lanceurs, parce que les frappeurs pourraient frapper des 20 manches en 2 jours. Là, on s'en fout.
Ménager un peu pour le match d'après.
Ouais.
Et ben, tu sais, comme Otani, là, un joueur que tu trouves...
J'en ai parlé hier un peu là, dans notre discussion de groupe, hein, et je pense que c'est un peu une légende vivante là, qu'on aperçoit, qu'on voit jouer en ce moment, Shohei
Otani.
Que
tout le monde souhaite avoir dans son pool en ce moment.
Ça n'a juste pas rapport. C'est quoi hier? 8 retraits sur des prises? 9 retraits sur des prises? Il a frappé quoi? 2-3 points produits? 2-2? 3-3?
Ouais, lui, 3 points... run scored, là, je l'ai en anglais évidemment.
Les points
deux,
produits.
2 points. 3
points comptés.
Points
ouais, on va finir par l'avoir.
2 points produits, puis il y a eu la victoire
c'est
aussi.
C'est ça. Ah non, c'est complètement débile ce qu'a fait Shohei Ohtani, autant derrière le monticule qu'au bâton. C'est un cyborg, il vient pas de cette planète-ci, Shohei Ohtani, littéralement. C'est un robot. Je pense que c'est une invention d'Elon Musk. Là. C'est sûrement une espèce de produit. C'est un Tesla réinventé, c'est un Transformer.
Ah non, ceux qui pensent que regarder le baseball, là, ça peut être plate. Là. Regarder un match avec Shohei Ohtani...
Ouais, regardez les Angels en général. Là. C'est un club qui gagne pas en général, mais Mike Trout est un talent générationnel, puis Shohei Ohtani aussi. Là.
Donc, ouais, vraiment, c'est ça le fait.
Si vous avez une game de baseball, si vous voulez initier quelqu'un au baseball... Regardez les Angels.
Yeah.
Je sonne comme genre Renan Angelil ou un vendeur de chars en région, tu sais. Yeah.
T'avais-tu un autre joueur en vue, toi?
Non, ça fait pas mal le tour.
C'est un bon portrait.
Ouais. J'ai parlé un peu d'Evan Longoria tantôt qui m'étonne. Là. Je veux dire, pour moi, c'est un des gars qui.
Moyenne au bâton, 316.
Ouais.
Et 4 circuits, 12 points produits.
Crise de belle saison.
On va voir des prochaines semaines.
Mon français.
On va voir des prochaines semaines si les tendances qu'on a parlé vont se maintenir.
Pour avoir Evan Longoria dans mon pool depuis quelques semaines, dans l'autre avec d'autres copains, pour l'avoir dans mon pool, Il a un peu changé sa façon, son stance au bâton, donc sa façon de frapper, un peu sa motion, dans tous les cas, là, dans toutes les analyses que je peux faire, un peu grossières. Evan Longoria décide d'ouvrir un peu plus les jambes depuis, et son élan est beaucoup plus compact que dans les années précédentes, parce que je l'ai dans presque chaque année, c'est un joueur que j'aime énormément. Mais je vois une certaine transition et me force beaucoup moins. Force beaucoup moins la balle. En fait, étire moins aussi et n'essaie pas de tirer la balle donc au champ extérieur. La frappe tout simplement où ce qu'elle vient. Et ben c'est une force là. Je pense que ça aussi sa discipline au bâton en fait fi. Il soutire beaucoup plus de buts sur balle que dans les années précédentes. Donc j'ai hâte de voir la fin de saison de Evan Longoria qui a déjà 35 piges, donc 35 ans dans le baseball majeur. C'est pas jeune. Par contre, il y a des gars comme Nelson Cruz.
Non, un bon joueur d'expérience. Ouais, c'est ça.
Puis il y a des gars comme Nelson Cruz qui, à 40 ans, frappe encore 40 circuits par saison. Donc, je souhaite qu'Evan Longoria continue sa belle séquence. Parce
un
que
des seuls qui produit du côté de Minnesota.
Ouais,
c'est une autre histoire.
Les Twins qui ont été aussi frappés par plusieurs intempéries puis impondérables, là, les matchs reportés, la température, les attentats aussi. Donc, bref.
C'est vrai.
Ça va pas super bien dans la ville, mais le club devrait se replacer parce que c'est un club avec une profondeur incroyable. Hey Jonathan, petite pause publicitaire encore et au retour, ben je vais parler un peu de foot, quoi. Vous écoutez Conduite Antisportive sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Il ne paye pas le prix!
Tu veux ta dose de sport quotidienne?
La dureté du mental! Incroyable!
Écoute Chiz 94.3 du mardi au jeudi de 15h à 16h.
OK, gars. Montrez-nous ce que vous savez faire.
Conduite Antisportive, c'est la réunion des meilleurs passionnés de sport à Québec qui vous parle de l'actualité sportive.
Même dans le partner!
OK, football, baseball, soccer, curling, béton, chasse et pêche. Et bien plus! Conduite Antisportive, c'est du mardi au jeudi, dès 15h seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous souhaitez devenir bilingue ou faire valoir le bilinguisme au Canada? Ne cherchez pas plus loin. Perfectionnez votre anglais ou encore aidez des jeunes à apprendre le français en participant au programme Explore ou Odyssée. Explore et Odyssée vous permettent de vivre dans la langue et la culture d'une autre région au Canada, de vous faire des amis et de vivre des expériences inoubliables. Pour beaucoup, Explore et Odyssée ont changé leur vie. Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez françaisanglais.ca. Programme financé par le gouvernement du Canada.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la balle!
Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Hey, vous êtes de retour à Conduite Antisportive sur les ondes de Chiz 94.3 après plusieurs fins de chansons que j'ai alignées avec un jingle de WWE. C'est le bordel en studio parce que j'ai trop bu de café. Hey, écoutez, on parle de foot qui est mon sport de prédilection. Tu le sais, Jonathan,
ouais.
Comme à chaque semaine, je vous casse les oreilles avec le soccer. Encore cette semaine, ben, vu que la saison en MLS bat son plein, littéralement, et je vais parler évidemment de notre club de cœur. Club de cœur, entre guillemets, hein, parce que, ben, depuis le changement d'identité, c'est pas le même club et surtout qu'on est en année de reconstruction. Mais tout de même, je dois mentionner les faits d'armes de ce club-là qui nous surprennent maintenant de semaine en semaine, alors que l'Impact ou le CF Montréal pour les nouveaux, les néophytes et les initiés, en tout cas pour un peu tout le monde, le CF Montréal qui a soutiré un match nul au Nashville SC. Nashville qui est un club bien nanti quand même, avec un club une belle profondeur et un club qui est très offensif dans sa façon de jouer. Donc on peut dire que l'Impact en deuxième mi-temps en a pris pour son rhume.
Ça avait bien commencé pourtant.
Effectivement, gros début de match. C'est un peu la... la formule et la mauvaise tendance que l'Impact a depuis plusieurs années, depuis son entrée en MLS, en fait, de s'asseoir sur ses lauriers en deuxième mi-temps. Effectivement, Mason Toy avait ouvert la marque avec une copie carbone de son but de la semaine dernière contre le Toronto FC. Un tir courbé dans la lucarne droite pour déjouer le gardien de Nashville, Joe Willis. Super beau but, Mason Toy, bravo, qui devrait peut-être se retrouver dans les buts de la semaine à suivre. Zachary Broguillard aussi a enchaîné à la 42e minute avec un but, une montée à l'emporte-pièce dans son aile droite favorite, le défenseur latéral qui marque son premier but de la saison alors qu'il avait obtenu deux mentions d'assistance au premier match, donc deux passes décisives. Ça allait super bien à la mi-temps, mais tout s'est effondré en deuxième alors que Alex Mule est rentré sur le terrain et a fait littéralement le boulot de colmater la brèche en milieu de terrain, lui à son poste numéro 6, donc milieu défensif centre. Alex Mule a bloqué toutes les tentatives littéralement de passer par l'axe du côté de l'Impact. Après ça, ben Johan Cadiz a marqué de la tête sur un corner et ben Annie Mukhtar, le joueur désigné de Nashville, a marqué à la 77e et ça a très mal fini. On a eu quelques cheveux gris qui nous ont poussé sous la tête alors qu'à la 80e minute, on a eu une très belle chance de marquer du côté de Mukhtar aussi encore et ben on a failli quitter Nashville avec un score bredouille alors qu'on menait par deux buts du côté de l'Impact, mais bon, on s'en sort avec un match nul qui fait du bien malgré tout parce que c'est un match nul sur la route qui est du moins très bénéfique pour la suite au classement.
Un match nul au soccer, ça donne un point,
c'est
quand même.
Un point, ouais. Donc effectivement, c'est comme un peu une défaite en prolongation.
Donc son premier, okay. Donc premier de la conférence de l'Est.
Contre toute attente.
Contre toute attente, ouais, c'est ce qu'on peut voir.
Et ceux qui veulent prendre un pari comme quoi l'Impact va finir premier de la conférence, ne faites pas ça. C'est pas un bon move stratégique et financier. Donc ouais, l'Impact qui jouera son prochain match contre le Columbus Crew, je pense que tu me disais, oui. Jonathan. Samedi prochain.
Samedi à 15h.
On se tient au courant et c'est un match qui est toujours disponible en ligne et sur le rds.ca. Jonathan, est-ce que tu suis la MLS? Est-ce que tu as suivi ce match-là? Est-ce que tu as vu un peu les faits saillants?
Non.
Y a-tu juste moi à cette émission-là qui aime le soccer? Je
pense ça a que oui.
Hey, ben,
même si je te disais oui, ça apparaîtrait dans mes interventions.
C'est bien correct. Écoute, tu le sais, là, c'est pas conventionnel. Il est quoi? 17h03, on est encore en onde, on a encore de la jasette.
Ouais, il est tard. Hein?
Tu sais pourquoi? Parce que Félix Duchesne, animateur de Chérie Dream, ne peut pas être là en ce moment. Donc, avec le match retardé des Remparts, le match en prolongation, la programmation de Chiz est complètement aléatoire, pêle-mêle, toute fuckée.
Désalignée, oui.
Désorganisée, effectivement. Donc, je vais faire un petit segment culture à l'image de Chérie J'arrive à Conduite Antisportive. Donc, CAS devient CJA. Écoute, les acronymes, ça se passe.
Gabriel, expert de sport, ouais, se transforme en expert culturel. Mais en fait, tu l'es.
Faut dire que j'ai plusieurs chapeaux, effectivement. Mmh. Le sport n'est pas ma tasse de thé depuis plusieurs années, même si ça l'est aussi par la bande. J'essaie justement de varier. Je suis une girouette dans toutes les sphères de ma vie. Et bien, pour les intérêts... C'est d'autant plus véridique.
Une bonne girouette.
Yes.
Bon.
Donc, on s'en va écouter Étienne Copé qui est aux Francouvertes en ce moment, qui, en fait, là, dans les demi-finales des Francouvertes, sa vitrine est mercredi soir. Et après ça, un tour d'horizon de la culture cette semaine à Chérie J'arrive version CAS, 15 minutes intense bonus. Vous écoutez Chiz 94.3.
Vers mes remparts, moi je m'enfonce loin dans le noir pour éviter les gens qui vivent autour de moi, pour m'oublier le temps d'une chanson d'harmonium. Ralentir le tempo du métronome, respirer pour retrouver le calme dans mon corps. Tranquillement, couvre-feu pour mes enfants. Feu pour moi. perds mes remparts. Toi, tu m'apaises. Le froid devient tiède et j'apprends à réchauffer. Balancer le poids sur tes épaules, dévêtir nos problèmes pour qu'ils meurent de froid. Tranquillement, couvre-feu pour
écoutez, chérie, j'arrive, il est 17h09, Gabriel Tremblay à l'animation en remplacement de Félix Duchesne. J'ai plusieurs sujets chauds de l'actualité culturelle à vous proposer en version 15 minutes express. Donc, je vais parler un peu de Rosemary Records, la maison de disques montréalaise qui a signé une série de spectacles de session live, les sessions impossibles. Je vais aussi parler des Francouvertes qui battent son plein cette semaine, lundi, mardi et mercredi. En plus de ça, ben, c'est le lancement de Live Ouverte, une plateforme proposée par Sébastien Collin de spectacle Bonsai, une plateforme en ligne qui ressemble à Pokémon où le paysage culturel québécois est dessiné. C'est franchement merveilleux. Donc, vous écoutez Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3 et ça commence maintenant. Yes. Je suis toujours en compagnie de Jonathan Paradis qui fait ma transition entre conduite antisportive et Chérie, j'arrive. C'est une drôle d'émission, une drôle de journée alors que les Remparts ont joué de la prolongation sur la programmation de Chiz 94.3. Quand même débile. Et ben tu seras en guise de co-animateur à Chérie,
le
j'arrive.
Surveillage, je te check. Avec tes élans de café, là, tu...
Écoute, je fais tous les temps, littéralement. Ouais. Et bien, Jonathan, tu seras mon chaperon, mais aussi mon co-animateur. Et bien, je vais te proposer des sujets. Bien, tu me dis ce que t'en penses, puis comment tu trouves ça. C'est quand même cool d'avoir un avis externe derrière ça. J'ai plusieurs sujets là, de l'actualité culturelle, comme je l'ai dit dans l'introduction. Je parlais aussi de Rosemary Records, qui est une maison de disques montréalaise, qui, au cours de l'hiver, a proposé des rendez-vous entre deux artistes. Donc, les sessions impossibles, comme on appelle ça, c'était des duos, en fait, entre deux musiciens et musiciennes de la province de Québec, parce qu'il y a plusieurs artistes acadiens et des maritimes sur leur label, signés sur leur label. Il y avait, entre autres, Léa Jarry et Dance Lory Dance, groupe de rock québécois de la ville de Québec. Damoiseau et Antoine Lachance aussi, drôle de combinaison folk et chansonnier. Rick et les Bons Moments, qu'on connaît pour les Raton Lovers, qui avait un duo aussi avec Pierre Guitard, donc un bel univers qui se croise. Il y avait aussi Miro, rappeur, chanteur, violoncelliste par la bande aussi, avec Raton Lover, justement, que je parlais avec Rick et les Bons Moments. Belle combinaison, ça aussi, c'est intéressant. Et il y avait aussi Joseph Edgar et Désiré. Donc, c'était un jeu audacieux, une proposition relativement audacieuse pour le label montréalais. Et ben, ça donnait une couleur assez particulière à cette série-là qui, ben, a cumulé près de presque 300 000 vues au fil du temps. La dernière avait lieu quoi, le 30 avril dernier, 20 avril dernier. On peut les écouter sur le site même du label rosemaryrecords.ca ou encore sur YouTube, c'est disponible. Donc allez voir ça. Je vais aller jeter un coup d'œil à ça. Et là-dessus, ben, Crime, je fais une espèce de transition parce que c'est les Francouvertes en ce moment. Et Jonathan, est-ce que tu écoutes les Francouvertes tout dans la vie?
Non, mais parle-moi-en non.
C'est un concours, en fait.
Donne-moi le goût de l'écouter.
C'est en lien avec les Francopholies, que tu connais peut-être. Un des prix est d'ailleurs une présence aux Francopholies de Montréal. C'est un concours de vitrine en ce moment qui a lieu virtuellement, évidemment. Malheureusement, si on veut, parce que normalement, c'est physique et on peut acheter des billets en direct du Lion d'Or à Montréal. Donc, un concours de vitrine qui, littéralement, fait appel à toute la scène culturelle émergente du Québec. Donc, il n'y a pas vraiment de restrictions. Peu importe le projet, tu peux te soumettre une candidature aux Francouvertes. Et ben, c'est un concours de vitrine. Donc, il y a des préliminaires. Donc, une ronde de 9 artistes, même 16 artistes qui participeront. Et après ça, ben, évidemment, c'est comme une formule de tournoi. Donc, un palmarès évolutif. Donc, les groupes passent ou ne passent pas la coupure et continuent jusqu'en finale. Une finale qui contient 3 artistes. C'est du contenu principalement francophone, donc on doit respecter un certain quota. Donc certains groupes viennent des Maritimes, mais peuvent être francophones. Donc c'est un peu la seule contrainte derrière les Francouvertes. Et c'est en ce moment, alors que les demi-finales, donc 9 artistes sont en demi-finale en ce moment. Et hier, ben, c'est la première soirée des demi-finales. Et après le constat, après le classement, c'est Calamine, rappeuse engagée de Montréal, qui mène après la première soirée. Il y avait Ambre Ciel aussi. Et oui, merci, 2 groupes montréalais aussi dans cette soirée-là.
Autre que le rap, on peut voir quoi comme...
Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ambre Ciel, c'était du néo-classique, néo-soul, okay, expérimental, ambiant. Tandis que Oui Merci, c'est un peu plus indie rock avec une touche psychédélique, un peu pop aussi. Puis il y en a vraiment pour tous les goûts, là.
Et le rap a gagné.
Hier, le rap a gagné, le rap était à l'honneur. Et c'est justement en rap qu'on s'en va avec Calamine et la pièce Jean Talon, H694. Vous écoutez Chérie, j'arrive.
Le cadran, c'est une tragédie. Chillin' sur le gros snooze. Collé genre spaghetti. Faut se lever old school. J'suis un peu cowboy, mon amour est old school. Mais quand je monte en ciel, je vais pas fausse route. On travaille comme des automates. J'espère la journée café, non les métaux automates. Chaque fois, je déprime de voir qu'elle veut pas rester. Mais ça prend pas 5 minutes, puis je vois qu'elle me texte. Le réveil est doux dans la petite batterie. Montez le fucking quand t'as pique, c'est jamais fait appris. On fait l'amour comme des machines, on connaît ma mécanique. Les deux, on ne fait qu'un, j'suis bon en mathématiques. Les personnes de plus sharp que moi pour faire son lit. Sa chambre c'est un temple sacré et puis c'est girls only. On fringe toute la nuit puis je le kiffe comme Paris. Après pour digérer on boit un Spritz comme Paris. Oh baby baby baby, j'fly jusqu'à Jean Talon genre anytime. Oh baby baby baby, on sait que c'est ma blonde qui est le headline. C'est du sport comme à ESPN quand on est SPM. Parce qu'on est synchro, nous les lesbiennes. Mais tu me connais pas si t'as pas vu mes débordements. J'suis comme mon diva cop, puis je fuis fortement. J'ai checké son Tinder, puis j'y ai montré le mien. Excuse bébé, je sais pas pourquoi c'est bondé de même. Pourtant c'est comme clair, c'est ma blonde le headline. J'ai sa clé d'appart, puis j'suis dans sur ma belle-mère. Sa boisson, on évite sa gâchette, ses cassettes. Je la chicane de fumer, puis je bonne avec la pas cachette. Marathon d'après-midi, c'est quasiment pas sain. Je voudrais pas traumatiser les kids des voisins. Mais c'est le temps des rides dans son Ford Taurus. Après ce que le garage a dit bye, j'ai pris l'autobus. On fait du backseat dans son salon à star. On Netflix and chill en checkant des castors. Oh baby, 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 j'fly jusqu'à Jean Talon genre anytime. Oh baby, 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 on sait que c'est ma blonde qui est le headline. Baby, baby.
Salut tout le monde, ici Philippe Braque et vous vous apprêtez à écouter un ID de Philippe Braque sur Chiz.
Philippe Braque et Gabriel Tremblay sous les ondes de Chiz 94.3, toujours en compagnie de Jonathan Paradis qui m'a permis, tantôt, avant la pause, de faire une espèce de tutoriel sur les francs couvertes. Ça m'a permis d'écrire le projet d'une drôle de façon. Je m'y attendais pas et c'est la journée des spontanéités à Chiz 94.3 parce qu'on s'adapte avec l'horaire des remparts qui sont en série éliminatoire. On le souligne. Si vous êtes en manque de divertissement cette semaine, ben c'est pas les options qui manquent. Et si vous êtes à court de soirée tout court, d'idées de soirée, les francs couvertes, c'est un 12$ bien investi, comme j'en parlais un petit peu avant la pause. Je vous le garantis, c'est vraiment un 12$ bien investi. Ne serait-ce que pour dire des niaiseries sur le clavardage en ligne pendant le spectacle, si ça vous tente pas d'écouter les bandes nécessairement. C'est aussi la plateforme où les journalistes culturels comme moi veulent puncher des jokes plates. Et ben la famille des bandes aussi est là pour... cheer up et encourager leurs poulains, leurs fils et filles. C'est quand même très drôle. Hier, c'était la première soirée des demi-finales, comme je le mentionnais plus tôt. Il y a toujours un invité aussi issu de la communauté autochtone qui est présent pour introduire les groupes. Donc hier, c'était Mathieu, un gentil, sympathique gaillard de la Côte-Nord, un chanteur Innu, digne d'un chansonnier de région. J'aime beaucoup son approche. Il est très, très sympathique. Une aisance qu'on sent déconcertante sur scène. Il a un peu ouvert la soirée en toute simplicité, dirais-je. Et ben ça a donné une belle introspection dans son univers alors qu'il chantait aussi en Innu et en français. Donc on a pu constater puis apprécier sa voix dans les deux langues, une voix très rauque, très chaude. Donc belle découverte qu'est Mathieu. Et ben il a fini par dire il y a des bons bennes qui s'en viennent là, pas comme moi, t'sais, en toute honnêteté, en toute humilité.
Ouais,
bravo à Mathieu qui a ouvert la soirée. Le premier ben à se lancer, c'était Ambre Ciel. Se lancer, dis-je bien, c'était très très soporifique, très doux, alors que ben c'est une proposition assez unique dans la formule des francs couvertes, une proposition néoclassique, très, très, très douce, très contemplative. C'est pas tous les années qu'on voit ça au francouvert, donc violon, violoncelle, avec de la harpe, des percussions très douces aussi, avec des balais sans baguettes. La voix de la chanteuse est très, très planante. Une proposition qui, si vous voulez faire lever une soirée, c'est peut-être pas la meilleure idée au monde. Par contre, c'est très original et ben ça donnait le goût de se coller, de faire des beaux dodos et de relaxer, d'être zen en continuant la soirée, de peut-être se prendre un petit verre à la main. C'est en fait aussi une belle ascension qui est la formule qu'a optée pour Ambre Ciel, une formule très très douce et larmoyante presque en début de performance, une courte vitrine en plus, vers une ascension plutôt forte alors que la voix montait en puissance et en mélodie, en harmonie vocale aussi. Donc c'était chouette de voir Ambre Ciel. Moi, c'est pas vraiment mon jam, surtout pas pour une vitrine à l'écran, du moins. C'est difficile de percer l'écran là, derrière un style aussi, fermé et abrasif, pas abrasif, mais hermétique qu'Ambre Ciel. Donc, c'était peut-être difficile à l'écran. Je sais pas pour les autres. Moi, j'ai pas vraiment embarqué dans la proposition, mais bon, quand même.
Il y a certains genres qui doivent moins bien se traduire à l'écran, les versions virtuelles aussi en ce moment.
Tout à fait, c'est pas évident. C'était pas évident, effectivement.
Okay, la vibe qu'on peut ressentir en direct.
Tout à fait. Moi, exactement. Moi, dans un théâtre, une salle vraiment, vraiment intime, Ambre Ciel, j'embarque, mais à 100 000 à l'heure là-dedans.
On dirait que ça remonte à des années aussi. Ouais, c'est pas la dernière fois que j'ai vu un bon spectacle en personne.
Ça nous manque, effectivement. Deuxième en liste, c'était Oui Merci, un band montréalais encore. Formation ou garderie assez, assez sympathique encore à l'image de Mathieu. Ils sont arrivés sur scène avec des couronnes de ballons gonflés sur leur tête. Ça donnait presque de l'urticaire en attendant le ballon qui pète puis qui fasse une cacophonie alors que les gars et filles jouaient en ce moment. C'était assez décousu comme formule. Par contre, musicalement, ça tenait bien, un indie rock assez joyeux, pépé, hop la vie. C'est une gang de chums, c'est vraiment en partie des colocs aussi, ça se voit, c'est une espèce de sentiment de commune qu'on a à travers leur musique, là, la musique de Oui Merci. Par contre, le public n'a rien reçu de foncièrement étonnant, on s'entend, là, c'est du indie rock de vacances assez sympathique où, les vocales sont à retravailler, effectivement, ça fausse de temps en temps. Par contre, ça colle, c'est le fun, c'est agréable, on passe un bon moment. Bonne tune de printemps, de party, si on veut aussi. Puis visuellement, ça allait. Une belle formation qui était peut-être semi-énergique. Un des percussionnistes, guitaristes, est très, 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 très sur le 120, disons ça. Très énergique. Pour le reste, c'était pas la mer à boire. Par contre, point bonus pour la couronne de ballon, comme je l'ai dit. C'était un bel effort visuel de mise en scène, si on veut, entre guillemets. Faut dire que pendant la performance, mais pendant toute la soirée, on pouvait jaser avec des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, d'ailleurs des médias montréalais ou des copains de la famille, etc., pendant le spectacle sur le clavardage. Et ben, vu que les changeovers, donc les changements entre les groupes étaient assez longs, assez longs, on pouvait justement se permettre de jaser sur le clavardage en ligne. C'est quand même assez plaisant. Avant de terminer la soirée avec la favorite de cette vitrine-là, c'est un secret pour personne, je pense, Calamine, rappeuse montréalaise engagée, qui a un message plutôt important à porter, celui de l'inclusivité, et ben toute la communauté LGBTQ est derrière elle, donc c'est vraiment important ce que Calamine fait, et ben elle a tout mon respect pour ça, et ben de le transmettre à travers une vitrine comme ça et de crever l'écran, surtout que c'est elle qui a vraiment joué avec les diverses caméras qui étaient présentes au Lion d'Or ce soir-là. Elle a vraiment vraiment crevé l'écran pour c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, au niveau de sa perfo, musicalement parlant, elle a manqué de souffle à plusieurs reprises malgré tout. En fait, elle a opté pour ça. Je comprends pas nécessairement, peut-être qu'elle m'expliquera un jour pourquoi condenser 6-7 chansons très, 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 très denses ensemble pour essayer justement de jouer le plus de chansons possible dans sa courte vitrine. Ça a peut-être joué à son défaveur et en la défaveur de sa voix, alors qu'elle a manqué de souffle un petit peu. Son flow et ses thèmes aussi sont assez répétitifs. J'ai l'impression que il n'y avait pas vraiment de pièces qui se détachaient de ce lot-là, très, très dense, très vite aussi, très, très court. Donc, mais ne serait-ce que pour le jeu de la caméra, la présence, la prestance sur scène aussi, l'assurance qu'elle avait, c'est pas son premier barbecue, contrairement à Oui Merci, qui, alors que les préliminaires battaient leur plein, c'était leur première prestation ensemble, leur premier show. Je veux dire, là, Calamine a déjà un peu plus de bagage derrière ça. Ben, ça paraît aussi. Elle a littéralement gagné cette vitrine-là, elle qui mène après la première soirée de
On prend les opportunités qui passent en ce moment, là. C'est leur gang pain aussi, d'une manière ou d'une autre. Donc, les opportunités ne se présentent pas à tous les jours. Donc, d'après moi, elle a voulu aussi. Elle doit être en constante élévation. Ben, en ce moment, elle doit se faire connaître, là. Moi, je ne la connaissais pas à la base.
Mais je pense que tu aimerais en plus. Tu es un gars qui aime le hip-hop en général, là, pour avoir fait quelques voyages d'auto.
Ouais, puis comme tu en parles aussi, elle a l'air à avoir vraiment des bonnes valeurs et tout. Ouais. Mais c'est ça, en ce moment, elle a dû vouloir vraiment tout mettre les chants de son côté en condensant ses... Oui. Mais malheureusement, ça a été à son désavantage, ça n'enlève pas son talent.
Puis je pense juste qu'elle peut recevoir que des bons commentaires de cette vitrine-là, alors que pour voter, en fait, pour que ton vote soit comptabilisé, tu dois émettre des commentaires et prendre un indice en note à l'écran. Okay. Je t'explique un peu le principe, Jonathan, c'est ça. Donc, à chaque performance, il y a un indice qui nous est proposé à l'écran, et pour comptabiliser ton vote et tes commentaires à chaque artiste, tu dois effectivement mentionner l'indice, et comme ça, ben, tu as un minimum de mots aussi à respecter, ben, et des notes à remplir. Donc, ça nécessite une certaine rigueur de prendre son vote en considération. Et ben, je pense qu'elle va recevoir plein de bons commentaires, elle qui mène de toute façon après cette première demi-finale. Ce soir, ben, on peut voir Tremble, Étienne Copé et Douance. Deux favoris en Étienne Copé et Douance. Mais Tremble aussi peut jouer les Troubles Fêtes. À voir, c'est à compter de 20h. Et l'artiste invité, c'est Dan George McKenzie pour ce soir. Sinon, mercredi 28 avril, il y a aussi Super Plage, donc la belle disco pop de Brosse de Parc avec notre ami Jules Henry. Vendôme aussi, super groupe formé à la station Vendôme à Montréal. Donc hommage à la STM. Et aussi le rappeur Jam qui a gagné récemment la fin des faibles émissions à Télé-Québec. Donc, c'est aussi à compter de 20h mercredi. Et l'artiste invité ce soir-là, c'est Scott Pien Picard. C'est ce qui conclut cette version express, dis-je bien, de Chérie, j'arrive, édition du mardi 27 avril. On finit l'émission avec Super Plage, dont je viens de parler, et la pièce Reine de la jungle. On se revoit demain à Chérie J'arrive avec Gabriel Morissette. Ceci est maintenant les architectes du son qui vont prendre le relais à 17h30. Bye bye et bonne soirée.
Ciao.
Bye.
En savoir plus sur la psyché humaine? Divertissante, parfois sérieuse, mais toujours instructive, Psychoserie est une émission de radio qui aborde des sujets en lien avec la psychiatrie et la psychologie. Téléchargez le balado ou syntonisez Chiz 94.3 tous les dimanches 11h30 pour un rush de monoamine dans votre cortex préfrontal.
Un proche, vivez avec une perte de vision, peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez INCA.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Don't you ever dare do that again. Save that kind of nonsense for your friends. I've got better things to do. Don't you ever dare do that again. Save that kind of nonsense for your friends. I've got better things to do.
Yeah. You ain't never planned to tell me, did you? Oh, you're not gonna take it upon yourself, but you said the issue. That's cool. Your loud mouth homegirl said it ain't my issue. Don't even bother with them, baby girl, just keep it simple. You ain't think I see it in your eyes, now did you? You wasn't acting like yourself, I knew that something hit you.
What the fuck is going on?
We was walking home and I was like, what's with you? I never saw you like this ever, ma, so what's official? It was mad cold, freezing out, I remember. That kind of cold only exists in a Philly December. I was holding on your hand and I could feel the tremor. Tears flowing from your face and I could hear you tremble. You ain't had to say nothing, I knew the time. Allah give you a blessing and that's the true design. It's in my nature during my tough times to stay quiet. I held your hand a little tighter and I stayed silent.
Don't you ever dare do that again. Say that kind of nonsense for your friends. I've got better things to do. Don't you ever dare do that again. Say that kind of nonsense for your friends. I've got better things to do.
You could hear a pin drop in the elevator.
He's gonna ignore me.
And who am I to try and interrogate her? You either gonna tell me or you not.
No, tell me
and
you
me
not.
Applying pressure ain't gonna help this shit to stop. Laying in the bed crying on my shoulder. Well, you don't have the words, the only thing to do is hold her. It was weighing on me like a boulder. But she was keeping quiet, trying to let it smolder.
Why
you was sold me, thinking I don't know. Think the nature don't exist and you won't show.
It's never gonna happen.
It ain't gonna be winter with no snow.
No.
You wanna take the life of a child so it won't grow.
Why would you do that?
I ain't had no say, I ain't had no power.
No power.
But I still try to convince you to the final hour.
Do this.
So if it's gonna be the end, then it's the end. Say it's dark fit the law. Never spoke to her again.
I'm out.
C'était Vinnie Paz, I'm Thinking of Ending Things. Vous êtes aux architectes du son, 100% nouveauté aujourd'hui. Cette semaine, une seule journée pour les nouveautés. Hier, c'était B.O.D. Qui nous présentait son cinquième album, Tête fromagée. Plusieurs nouveautés cette semaine, des gros, gros albums. Beneficence avec Confidence, beaucoup, beaucoup de gros noms en featuring là-dessus. Master Ace, qui d'autres déjà, Craig G, Lord Tariq, Ali Vegas, Keith Murray, Rascas, AG, Chubb Rock là-dessus également. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? DeFarai, Eric Bobo, Stu Bengus également, Empires, gros album, beaucoup, beaucoup de collaborations, beaucoup d'invités. Crisis également, The Hour of Crisis, gros.